Vous écoutez
RMC.
Vendredi 29 mai,
l'info sur RMC.
Et presque 7h, pas tout à fait, Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Deuxième phase du déconfinement enclenchée. Dès mardi, les restaurants et cafés vont rouvrir avec des mesures sanitaires à respecter. Même chose pour les salles de sport. Et dès ce week-end, réouverture des parcs et jardins dans les zones qui étaient rouges jusque-là. La fin aussi de la limitation des 100 km et l'annulation de l'oral du bac français pour les élèves de première. Notre Xibet Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, sera sur RMC BFM TV à 8h30. Dans l'actualité également, Renault va supprimer 4600 postes en France, c'est 10% de son effectif. Et puis, nous reviendrons aussi sur la carrière de Guy Bedos, disparu hier à l'âge de 85 ans. Bienvenue à tous sur RMC. Allez, plus que 4 jours et les restaurants pourront enfin rouvrir. La bonne nouvelle est tombée hier. Tous les indicateurs sont au vert, a déclaré Édouard Philippe. Le Premier ministre a précisé que des mesures sanitaires strictes devront toutefois être respectées. Les restaurateurs sont désormais fixés et ils vont pouvoir s'organiser avant d'accueillir à nouveau les clients. Reportage à Reims de Romain Poiseau et Florian Chevalet.
Dans son restaurant, Thibault, les yeux rivés sur son téléphone portable, écoute le Premier ministre.
Les restaurants pourront ouvrir à partir du 2 juin.
Putain, ça fait du bien, quoi. Les affaires reprennent.
Après 2 mois passés sans le moindre client à table, le patron n'a qu'une seule idée en tête.
C'est recevoir mes clients, leur proposer ma carte et puis leur parler de nos produits, de nos fournisseurs, de nos belles recettes. C'est ça qui me manque, c'est le lien social qu'on pouvait avoir avec nos clients. C'est ça mon métier, c'est d'apporter du bonheur aux gens.
Pour limiter la casse, depuis plusieurs semaines, le restaurant propose de la vente à emporter. Olivier, le chef cuisinier, est soulagé à l'idée d'enfin pouvoir cuisiner autre chose que des burgers.
Pour moi, c'était plus un hobby qu'un métier. Maintenant, là, je peux repratiquer mon métier. Dresser une assiette, faire avoir une belle préparation, faire de la cuisson minute.
Pour cela, il faudra encore un peu de patience, quelques jours avant de pouvoir relancer la machine.
C'est comme toute entreprise, ça demande une organisation. Il faut quelques approvisionnements, faire revenir le personnel qui est en chômage partiel, puis c'est reparti.
Une reprise estimée jeudi prochain pour enfin démarrer la saison.
On rattrapera pas le retard, mais on pourra peut-être s'en sortir.
Dans les zones désormais classées orange, Île-de-France, Guyane, Mayotte, seules les terrasses seront accessibles. Réouverture complète fixée au 22 juin. Bonjour Paul Barcelone.
Bonjour Céline.
On revient avec vous sur les autres annonces d'Édouard Philippe. Dès mardi, il n'y aura donc plus besoin d'attestation pour se déplacer.
Oui, le gouvernement met fin à la règle des 100 km, une mesure plutôt bien respectée jusque-là, mais qui n'a plus lieu d'être, selon le Premier ministre Édouard Philippe. La liberté va enfin redevenir la règle, dit-il, pour le plus grand bonheur d'Alexandre.
À la fin des 100 km, on est quand même content d'avoir appris ça. Ça fait quelques mois qu'on est confiné à Boulogne-Billancourt. Et du coup, moi, j'ai pas vu mes parents, par exemple, qui habitent dans la région centre depuis le mois de février. Voilà, ils attendaient que je vienne les voir. Donc, j'attendais quand même les levées de toute restriction pour le faire. Donc, on a 300 km à faire. Et c'est vraiment sympa de se dire qu'on va pouvoir faire enfin un peu de barbecue et peut-être de piscine. C'est un petit sentiment de liberté qu'on a l'impression d'avoir un peu perdu.
Pour autant, pas question de relâcher la vigilance. Édouard Philippe conseille de reporter les déplacements les plus lointains. Et il sera toujours interdit de franchir les frontières de l'Europe sans motif impérieux. Et ce, jusqu'au 15 juin, Céline.
Et Paul, on va pouvoir aussi refaire du sport.
Oui, les salles de sport, piscines, gymnases, salles de spectacle et théâtres rouvrent. Mais attention, réouverture uniquement en zone verte dès mardi. Et avec des règles drastiques, évidemment. Réservation obligatoire, temps limité à l'intérieur pour la zone orange. Celle de Paris et de l'Île-de-France. Il faudra attendre le 22 juin. D'ailleurs, le gouvernement maintient plusieurs interdictions, justement jusqu'au 22 juin sur tout le territoire. Stade, hippodrome, discothèque, sport collectif et sport de combat.
Ce qui va changer également à partir de mardi, c'est la réouverture de toutes les écoles avec toujours des règles sanitaires très strictes. Les précisions du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer.
Toutes les écoles seront ouvertes. Toutes les familles qui le souhaitent doivent pouvoir scolariser leurs enfants. Au moins sur une partie de la semaine. Comme les règles sanitaires restent en vigueur, il y aura toujours des groupes de 15 élèves maximum. Mais il est indispensable de proposer un accueil complémentaire aux familles. C'est pourquoi nous développons particulièrement au mois de juin le programme Sport, Santé et Culture, Civisme, conçu avec un financement de l'État pour soutenir les communes, de façon à ce que cela se déploie pleinement au mois de juin. En d'autres termes, les élèves peuvent être soit en classe, en petits groupes, soit dans ce type d'activité, notamment quand les parents doivent travailler.
Paul Barcelone, vous nous le révéliez dès hier matin sur RMC, il n'y aura pas de bac d'oral de français pour les élèves de première.
Oui, c'est une mesure qui concerne plus de 500 000 élèves de première. À l'origine, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, était plutôt pour le maintien de l'épreuve, mais il justifie sa décision par l'inégale préparation des lycéens, due évidemment au confinement. Ce sont donc les notes de contrôle continu accumulées tout au long de l'année qui seront prises en compte.
Et soulagement du côté des principaux intéressés qui n'ont finalement eu que 6 mois de cours et pas de préparation à cette épreuve. Écoutez ces deux lycéennes, Mathilde et Julie, interrogées après les annonces du Premier ministre.
Moi, je trouve que c'est quand même un soulagement parce que l'oral de français, c'est un truc qu'on n'a jamais fait. Donc, on a quand même besoin d'être guidé et d'avoir des méthodes assez claires et précises. Donc, je pense que c'est une bonne décision.
Bon, on se demande plein de trucs. Est-ce qu'ils vont pondérer les moyennes? Est-ce qu'ils vont laisser comme ça? Est-ce qu'ils vont être plus indulgents? Mais c'est vrai que c'est ça, le fait de ne pas savoir là, pendant peut-être un mois, on ne savait pas du tout. Il y avait des avis qui disaient, vous allez l'avoir. D'autres qui disaient, non, tous les syndicats, ils sont contre. Et au final, on ne l'a pas.
Alors, sur le plan sanitaire, les hôpitaux restent en tension à Mayotte et dans le Val d'Oise, seul territoire métropolitain où le virus circule encore activement. Caroline Philippe.
Plus de 10 personnes infectées pour 100 000 habitants. Les chiffres sont en baisse, mais le virus circule toujours. Ces derniers jours, le docteur Agnès Ricaribon, chef du SAMU dans le Val d'Oise, estime encore réaliser une cinquantaine de tests quotidiennement.
On en a toujours. C'est pour ça qu'on reste extrêmement vigilant. Le classement en orange, c'est pas une punition. C'est une vigilance pour justement protéger la population. Moi, je ne suis pas surprise de ce résultat. Je suis plutôt même rassurée par le fait que on ne baisse pas trop la garde alors que le virus continue de circuler. On n'est pas à l'abri d'une réapparition de clusters.
C'est tout l'enjeu désormais pour contrôler l'épidémie, repérer ces clusters, ces foyers de contamination, explique le docteur Robert Sebag, infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
On sait aujourd'hui les repérer, ce qu'on n'a pas su faire dans le passé, c'est-à-dire faire des tests, isoler les gens, on veut vérifier les personnes contacts et on va bien les circonscrire et les éliminer. Il n'y a aucune panique particulière à avoir.
Aujourd'hui, dans le département du Val d'Oise, 29 patients sont toujours hospitalisés en réanimation sur 58 lits disponibles.
Encore une très forte hausse du chômage en avril, 22,6% par rapport au mois de mars. C'est dans ce contexte que Renault va annoncer la suppression de 15 000 emplois dans le monde. Le constructeur va le faire aujourd'hui, va annoncer donc son plan de restructuration. Les syndicats ont été mis au parfum des hier soir, Gladys Laffitte.
Oui, pas de licenciement sec, mais des départs volontaires, des départs à la retraite non remplacés et de la mobilité interne ou des reconversions. Voilà ce qui attend donc 4600 salariés de Renault en France. 4 sites devraient être affectés par ce plan d'économie. La fonderie de Bretagne à Caudan qui compte 400 salariés. L'activité du site de Choisy-le-Roi devrait être récupérée par celui de Flins dans les Yvelines quand la production de la Zoé sera arrêtée. Enfin, la fusion de l'usine de Dieppe qui produit l'Alpine 110 et celle de Maubeuge est envisagée pour créer un centre d'excellence des véhicules électriques. Alors le mot fermeture n'a pas été prononcé, c'est ce que rapportent les syndicats. Mais des hypothèses de travail, des projets de reconversion, une revue stratégique, bref, la route des négociations est encore longue. Le constructeur faisait déjà face à des difficultés, notamment des surcapacités de production avant la crise du Covid-19. Crise qui a bien sûr aggravé les pertes du groupe.
Merci Gladys. Là, c'est joué à 13 voix près. Le Sénat, à majorité de droite, a rejeté un allongement temporaire des délais de l'interruption volontaire de grossesse de 12 à 14 semaines. C'est la sénatrice socialiste de l'Oise, Laurence Rossignol, qui avait déposé l'amendement. Elle a précisé que la crise sanitaire avait eu un effet délétère sur l'accès à l'IVG et les grossesses non désirées. Aux États-Unis, près de 1300 personnes ont encore succombé au Covid-19 ces dernières 24 heures. Et à Minneapolis, dans le nord du pays, les affrontements et scènes de pillage se multiplient. Des violences qui ont débuté après la mort brutale d'un Afro-Américain lors de son arrestation lundi. Le gouverneur de l'État du Minnesota a signé un décret pour autoriser l'intervention de la garde nationale. 200 policiers de l'État ainsi que des hélicoptères vont également être envoyés sur place. On apprend aussi ce matin que le commissariat de police où travaillaient les 4 policiers donc impliqués est en feu. Il a retrouvé Michel Piccoli, Jean-Louis Dabadie, récemment parti au paradis. Guy Bedos est mort hier à l'âge de 85 ans. Comme je suis fier de t'avoir eu comme père, a déclaré son fils Nicolas sur Instagram. Jean-Michel Ribes, le directeur du Théâtre du Rond-Point à Paris, se souvient d'un homme généreux.
C'était quelqu'un que j'aimais énormément. Le souvenir que j'ai, c'est que c'était un homme multiple, mais c'était surtout pas un ricaneur. C'était quelqu'un d'engagé, de très émouvant, de très généreux, et qui avait le culot grâce à son génie de trouver comme ça des formules irrésistibles, de dire des choses que peu de gens disaient. Et je dois dire que son insolence était salutaire et qui en même temps avait le courage de ses opinions qui étaient non seulement insolentes, non seulement violentes, mais elles passaient parce qu'elles étaient avec un humour extraordinairement efficace.
Jean-Michel Ribes, directeur du théâtre
c'est
du
une flambée,
Rond-Point, Jean-Jacques.
Oui, merci. Je parlais avec René
Martin.
Je lui parlais des campings tout à l'heure et le représentant des campings nous disait que s'il y avait une flambée de réservations depuis les annonces d'Édouard Philippe-Hier, nous allons revenir évidemment sur toutes les annonces puisque bah, nous sortons de ce déconfinement, mais en phase 2 du déconfinement, nous ne sommes pas encore complètement sorti, notamment en zone orange, mais en zone verte, vraiment, ça s'améliore nettement. René Marchicli, qui est le président de la Fédération des Tours Opérateurs, vice-président de la Confédération des Acteurs du Tourisme, et qui est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour, d'abord, Jean-Jacques.
Bonjour. Alors,
bonjour à tous.
D'abord, nous allons répondre à quelques questions d'auditeurs. Et d'ailleurs, si vous voulez appeler, vous n'hésitez pas, je vais prendre Yves aussi, dans un instant, qui est dans la Loire. Quelques questions d'auditeurs à propos de... Bah, à propos de plusieurs sujets. Les balles du 14 juillet, on en parlait tout à l'heure, Quentin Vinet, vont-ils pouvoir avoir lieu ?
Ah, ça, c'est une question de Franck. Édouard Philippe n'en a pas parlé, c'est vrai. Il n'en a pas parlé nommément hier après-midi, mais il a dit que la jauge pour les manifestations avec du public serait de 5000 personnes maximum. Et c'est vrai que dans les campings, on pense à annuler, par exemple, les soirées dansantes.
Oui, dans les campings peut-être, mais le bal du 14 juillet, moins de 5000, ça va pouvoir avoir lieu, théoriquement. Bien. Question de Pierre. Qu'en est-il pour les hôtels ? On n'a pas parlé des hôtels hier.
Et pourquoi il n'en a pas parlé, Édouard Philippe ? Et bien, tout simplement parce que les hôtels n'ont pas été obligés de fermer pendant le confinement. Ils ont le droit d'ouvrir depuis le 17 mars, même si dans les faits, faute de clients, 90% des établissements sont restés fermés.
Mais là, tous les hôtels vont pouvoir ouvrir, René Marchicli, sans problème.
Tout à fait, il suffit de mettre en place tout le dispositif.
Ça va être compliqué quand même
pour
les hôtels.
Ça va être compliqué quand même.
Ben oui, parce que, dites-moi, mais comment faire dans un hôtel ? Il va falloir redoubler de vigilance
je pense que Sébastien Bazin a travaillé avec un tout grand groupe de travail pour donner au moins un peu des directives assez claires. Parce qu'on a quand même vu pendant cette période, depuis le 17 mars, des hôtels ouverts, mais avec des ascenseurs fermés. Alors il fallait plutôt loger au premier étage qu'au dernier étage.
Donc
il faut quand même trouver une certaine logique dans la reprise.
Bien sûr. Les cures thermales.
Alors, pas de précision concernant
d'Eric.
Les cures, pas de précision, mais les établissements sont fermés aujourd'hui, on le sait, mais les voyants sont plutôt au vert. Pourquoi ? Parce que les piscines, par exemple, les piscines, elles vont pouvoir rouvrir à partir du 2 juin dans les zones vertes, pas avant le 22, c'est vrai, dans les zones orange. Les chaînes thermales du soleil, par exemple, se disent optimistes pour une reprise vers la mi-juillet.
Vers la mi-juillet, 13-15 juillet, René Marchicli, sur les cures thermales les...
Oui, c'est à peu près, on va retrouver à peu près cette date de 15-17 juillet.
Le temps de se mettre en place.
On a quand même besoin, tout corps professionnel confondu, ont besoin d'un certain moment d'adaptation. C'est mieux qu'il n'y ait pas trop de clients d'un seul coup d'ailleurs.
Oui.
On voit un petit peu comment on va s'organiser par rapport à ça. L'idéal serait d'occuper au maximum toutes les surfaces touristiques.
Bien, question de 100 cas. Peut-on passer certaines frontières en voiture, notamment l'Espagne ?
Alors la France est favorable à une réouverture des frontières le 15 juin au niveau européen.
Espace Schengen, on est bien d'accord.
Au 15 juin, mais le gouvernement italien l'a déjà dit, les Français pourront aller en Italie à partir du 2 juin.
Mardi prochain.
Ce sera début juillet pour l'Espagne et l'Andorre. L'Andorre, ce sera le 1er juin pour faire ses courses, par exemple, au Pas de la Case, même s'il faudra habiter dans un rayon de 100 km pour éviter la cohue, comme on a pu le voir au Pertus.
Oui, parce que n'oubliez pas que la règle des 100 km s'applique jusqu'au 1er juin à minuit. Partir du 2 juin, plus terminé. René Marchicli, l'Europe. Alors, je le disais, les frontières vont être ouvertes en Europe. Espace Schengen à l'intérieur de l'Europe le 15 juin, c'est ça ?
Le 15 juin, oui.
Le 15 juin, c'est-à-dire que le 15 juin, je vais pouvoir voyager, je vais pouvoir aller en Allemagne, en Belgique, au Portugal.
En Grèce, en Italie.
En Italie, sans aucun problème.
En Italie, on peut y aller, effectivement.
On peut y aller, oui.
À partir du 2.
Et inversement, les Grecs vont pouvoir venir en France, les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les Hollandais,
Paris ou la France, en général, va retrouver une partie de ses étrangers, effectivement.
Ça, c'est
qui vont commencer à s'organiser. Ce que vous disiez tout à l'heure, on l'a vécu, rappelez-vous, après le 11 mai, aussitôt qu'il y a une nouvelle, et particulièrement après l'intervention du Premier ministre du 26 mai, aussitôt que vous avez une bonne nouvelle, vous avez des réservations qui explosent.
Oui, qui explosent. Et vous le sentez, vous aussi ?
Bien sûr. Là, je pense que dans les semaines qui vont suivre, on va avoir pas mal de réservations sur l'ensemble des destinations, particulièrement Grèce, Espagne.
Oui.
Mais faut se dire quand même
que... qu'aujourd'hui, il faut, si on veut partir en Grèce ou en Espagne, on peut aujourd'hui réserver.
On peut réserver, mais bon, aujourd'hui, les systèmes de réservation pour certains sont ouverts, d'autres pas encore, hein, faut être honnête. On est en attente de la mise en place de l'aérien quand même, hein.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Pour l'instant, quand vous allez dans les systèmes, vous pouvez voir une capacité
d'accueil est là. Le problème, c'est la capacité de transport.
La capacité de transport va s'ouvrir, hein, puisqu'on sait que les plans de transport des compagnies de charter ou des compagnies low cost étaient pratiquement sur les starting blocks, donc c'est prêt. Donc ça va se mettre en place dans la semaine. Donc on va commencer à pouvoir réserver et se dire qu'on peut aller au Baléares, aux Canaries, en Grèce ou quoi que ce soit. Mais le nombre de clients, c'est l'incertitude totale. Nous avons maintenu nos prévisions. On est toujours aussi à plus d'un moins 80% sur l'ensemble de mars.
À des jours.
Faut pas rêver. On n'a pas le long courrier.
Oui, c'est vrai.
Rappelez-vous, quand on se parlait, on se disait le 15 juin, c'est la date. Et c'est avéré que c'était bon. Ça fait quand même longtemps qu'on en parlait.
Oui.
Aujourd'hui, on pense que le long courrier, pour certaines destinations, ça sera peut-être plutôt le mois d'août ou le mois de septembre. Mais une grande partie des destinations très lointaines, et puis certaines très très lointaines, il ne faut pas espérer avant la fin de l'année. Il ne
faut pas espérer, oui, avant la fin de l'année. Nous allons prendre Yves, qui est dans la Loire. Bonjour Yves.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour RMC.
Je suis content parce que je ne vous oublie pas, les autocaristes.
Hein ? Oui.
Parce qu'on n'en parle jamais. Évidemment, on n'en parle jamais. Or, que vouliez-vous dire ?
Moi, mon interrogation, c'était, j'écoutais un petit peu Jean-Philippe Pierre. Oui. Et il a dit qu'on pouvait revoyager le tourisme, il n'y a pas de souci. Mais dans quelles conditions? Parce que nous, les autocaristes, moi qui arrive à faire des voyages, comme là pour le moment, on a un siège sur deux qui est condamné par les normes de conseil de la sécurité de l'État. Si un quart de 46 personnes, on met que 23 personnes.
René Marchuki, vous avez raison. Je vous coupe, Yves, parce que me vient à l'esprit quand même une remarque. Dans les avions, on ne demande pas aux compagnies un siège sur deux. Et pourquoi est-ce qu'on demanderait dans un autocar un siège sur deux? Franchement, je ne comprends pas.
Très juste, le lobbying aérien a démontré que, et ce que montre l'autocariste également, c'est qu'à passer un seuil, il y a 50% voire moins, vous ne pouvez pas rentabiliser votre autocar.
Enfin, le car, ce n'est pas possible, l'autocar.
Donc, il est évident... Et que ça nos amis autocaristes doivent continuer à se battre pour avoir des normes économiques acceptables.
Yves, battez-vous, mais on va essayer de vous accompagner.
Hein. J'imagine qu'on va se battre encore, on en parle. Alors, moi, je suis conducteur, je ne suis pas gérant de.
Oui, non, mais d'accord, mais vous êtes concerné.
Mais parce que bien sûr, on est concerné, parce que c'est vrai que ça ne sera pas gérable, quoi.
Évidemment que ce n'est pas gérable. Et puis, c'est complètement injuste. Franchement, c'est injuste.
Pourquoi un style de voyage aurait le droit et puis d'autres n'auraient pas.
Je suis d'accord. Et dans les trains, c'est comme dans les autocars. Dans les trains, c'est un siège sur deux toujours. Est-ce que ça va rester
toujours. Je pense que la troisième disposition du déconfinement, le 22 juin, on va voir quand même beaucoup de choses se remettre en place. Avec le port des masques dans un autocar un avion.
Ça, le port du masque, c'est...
À partir du moment où il n'y a pas de nourriture, on touche, il y a peut-être des normes à améliorer quand même.
Oui, parce que hier on n'a pas parlé de ça.
Sur la règle justement du un siège sur deux, la SNCF dit qu'elle attend des précisions du gouvernement certainement dans le week-end.
Alors, je note ça pour Sibeth Ndiaye, tiens, un siège sur deux. Vous me notez ça? Non.
Mais avec grand
allez,
plaisir.
Non, on va noter ça. Bien, René Marchicli, donc, c'est un soulagement. J'ai pas très bien compris hier le Premier ministre concernant les départements et territoires d'outre-mer. Non, mais j'ai pas très bien compris, là. Vous avez compris, vous? Qu'est-ce que vous avez compris?
Ça nous rassure, parce que...
Vous non plus.
On attend quand même.
Je suis content parce que vous n'avez pas compris non plus. Tiens, vous êtes comme moi, alors.
Voilà, il y a quand même une zone d'ombre.
Oui.
Je pense qu'il y a eu à un moment une grande délégation sur les maires et les préfets, ont pris des dispositions, en particulier à un moment donné, il fallait se tester avant de partir dans les dom-toms. Et puis d'un seul coup, il y a une ouverture. On a connu ça la dernière fois.
Hein. Oui.
Et je pense que c'est à peu près ce qui se passe avec la SNCF et je pense avec les autocars. C'est qu'à partir de la semaine, on va commencer à réaménager un petit peu tout le dispositif en fonction de ce qui a été dit
hier. Parce que là, hier, c'était un peu...
Parce que là, il faut absolument rouvrir les dom-toms.
Oui. Évidemment.
Pacifique.
Enfin, quand même, c'est invraisemblable. C'est une destination très prisée, hein, on est d'accord. Et puis, pour les dom-tom, c'est essentiel. Voilà, je voudrais qu'on y pense.
En ce qui nous concerne, nos adhérents, nous, on va communiquer dès aujourd'hui, précisément sur les dom-tom, en disant, voilà, accepter les réservations, mettre en place tout le dispositif. Bah,
évidemment. L'aéroport d'Orly qui devrait rouvrir le 26 juin, c'est important pour vous?
Oui, mais c'est dommage qu'il y ait un décalage entre le 15 juin et le 26 juin.
Je comprends pas. Là encore.
Peut-être c'est pour des raisons peut-être qui nous échappent, d'aménagement en matière de sécurité sanitaire. Mais c'est dommage puisqu'on rouvre le 15 juin, donc le 26 juin.
Bon,
Charles de Gaulle est capable de, quand même de prendre en charge d'absorber, la capacité.
Et les autres aéroports, vous savez, français, parce que beaucoup sont fermés ou fonctionnent vraiment très peu.
Oui, ils fonctionnaient en ralenti. Donc la remise à niveau est plutôt rapide pour
Tout ce qui est transport aérien, tout ce qui est transport d'ailleurs, on manque un peu de précision pour l'instant.
Exact.
Bien, merci beaucoup René Marchicli. Merci d'être venu nous voir ce matin. C'est passionnant. Ce sont des informations que nous voulons. Nous en avons besoin. Nous allons parler avec Marie Dupin des parcs d'attractions, je crois.
Oui, parce que là aussi, réouverture pour la plupart d'entre eux à partir de mardi prochain. Alors, lesquels ont déjà annoncé leur réouverture? Dans quelles conditions? Surtout, on va tout savoir. Dupin quotidien dans un instant sur RMC.
RMC, Dupin quotidien.
Avec Marie Dupin. Bonjour Marie.
Bonjour Jean-Jacques.
Marie, sous le tilleul, je ne vous vois pas, voilà. Il fait un peu frais sous le tilleul. J'ai vu que vous avez mis un pull hein, ce matin. C'est...
Ouais. Voilà, fraîcheur du matin.
Oui, bon, d'accord. Bon, Marie, le Premier ministre l'a annoncé hier, les parcs d'attractions vont pouvoir rouvrir à partir du 2 juin en zone verte. Et en zone orange, il faudra attendre encore le 22 juin probablement. Est-ce qu'on sait déjà quels parcs de loisirs vont ouvrir et quand?
Bah oui, vous l'avez dit, hein, dans les zones vertes, autorisation de rouvrir à partir de la semaine prochaine. Le premier parc d'attractions à avoir annoncé une réouverture, on en a beaucoup parlé, c'est le Puy du Fou, ce sera le 11 juin. Mais avant, il y aura l'ouverture en Auvergne du PAL, hein, le parc d'attractions animalier le 6 juin. Le Futuroscope a aussi annoncé hier soir qu'il ouvrirait ses portes à partir du 13 juin de façon progressive. D'abord uniquement le week-end, puis tous les jours de la semaine à partir du 7 juin. Et le zoo de Beauval sera même accessible dès le 2 juin, donc dès mardi prochain, on va pouvoir aller au zoo. Vous vous rendez compte, ça paraît fou.
Oui, et en Île-de-France, en revanche, pas de réouverture des parcs de loisirs.
Non, il va falloir attendre encore pour se rendre à la Mer de Sable ou à Disneyland Paris, au moins jusqu'au 22 juin. Quant au parc Astérix dans l'Oise, il annoncera mardi une date de réouverture. Le parc est dans une région verte, les Hauts-de-France, mais dans un département qui a été très touché par l'épidémie. La direction aimerait rouvrir ses portes mi-juin, le temps de se réorganiser, de mettre en place son protocole sanitaire, évidemment.
Quel sera le protocole sanitaire dans les parcs d'attractions, Marie?
Le plus souvent, il faudra réserver sur Internet pour limiter les files d'attente. Le Futuroscope, par exemple, sera accessible uniquement sur réservation. Partout, il y aura des marquages au sol, mais des marquages pour des groupes, pour des familles. Évidemment, pas de marquage individuel puisqu'on va jamais ou rarement seul dans un parc d'attractions. Il y aura du gel hydroalcoolique à l'entrée de chaque attraction. Les masques seront souvent obligatoires. Par exemple, au parc Astérix, ils seront obligatoires dans toutes les attractions, y compris les attractions aquatiques. Donc, il faudra en prévoir plusieurs pour la journée. Et puis, il y a la question du nombre de visiteurs qui pourra être accueillis. Édouard Philippe a parlé hier d'un seuil maximum de 5000 personnes pour les rassemblements publics. Les parcs d'attractions espèrent qu'ils ne seront pas concernés par ce seuil.
Merci Marie. Bonne journée, bon week-end. À lundi évidemment, lundi de Pentecôte. Vous serez là, et nous aussi d'ailleurs. L'actu des réseaux sociaux avec Charles Magnin.
RMC. Hashtag Magnin.
Les internautes fêtent l'annonce de la réouverture des cafés et des restaurants.
Enfin de retour, ça fait des mois que beaucoup en rêvent. Mon premier café en terrasse, je vais le faire durer des heures, dit un internaute.
Moi je suis prêt, hein. Vous aussi.
Jean-Jacques est prêt, on le sent aussi. Mardi soir, ça va se battre
une
pour
bière
une
fraîche,
dans
une
le
pression,
bar.
Une pression, une bonne pression en terrasse, au soleil. Non mais alors là je suis prêt.
Mardi après la matinale, 9h.
Mardi après la matinale, allez, c'est l'heure pour commencer.
C'est parfait. D'ailleurs, vu comme on a soif, on va sauver l'économie française avec notre retour dans les bars. bars, dit un internaute. Un autre annonce un taux record d'alcoolémie dans le pays mardi soir. D'ailleurs, selon un internaute, rouvrir les bars mardi, c'est bien, mais il faudrait que le lendemain soit décrété férié pour que tout ça soit cohérent.
Oui, rappelons qu'en Ile-de-France, seules les terrasses des cafés et des restaurants vont pouvoir rouvrir.
Ce qui fait dire à de nombreux internautes que les Parisiens vont se lancer dans leur guerre préférée, celle de la place en terrasse. Bonne chance à tous dans la quête du Graal, annonce un internaute. Il va falloir réserver dès aujourd'hui pour une place en octobre, craint un internaute. Ce qui fait un peu sourire les provinciaux sur Twitter. Ils sont mignons, ces Parisiens qui se réjouissent de pouvoir boire un café à 8 euros dans les pots d'échappement, dit un internaute. Un autre souhaite beaucoup de courage aux serveuses et serveurs qui font déjà 10 km par jour et vont devoir en faire le double avec toutes ces terrasses agrandies. Enfin, il y a ce cri du cœur très partagé sur Facebook avec cet internaute qui écrit « Pendant le confinement, je ne suis pas allé courir dehors pour laisser la place aux vrais sportifs professionnels. Alors pour la réouverture des bars, merci à tous les buveurs de Coca Zéro, de bière sans alcool et autres tisanes de laisser la place aux vrais professionnels du comptoir et du lever de coude », dit cet internaute
oui,
très motivé.
Mais on ne pourra pas rester au comptoir. Alors, vous le savez, s'accouder au comptoir, c'est tellement agréable.
Il faudra s'asseoir, malheureusement.
Ça encouragera la modération.
Oui, oui Charles, exactement. L'hommage sur les réseaux sociaux après l'annonce de la disparition de Guy Bedos à l'âge de 85 ans.
Annonce faite par son fils Nicolas sur Instagram qui écrit « Comme je suis fier de t'avoir eu pour père, embrasse des proches et d'Abadi, vu que vous êtes tous au paradis ». Alors hier soir, évidemment, le monde du cinéma, de la culture, de la télé, les politiques ont rendu hommage au talent de Guy Bedos sur Twitter. Immense humoriste, immense comédien, merci Monsieur Bedos, vous nous avez rendu moins cons et on part de loin, écrit par exemple le comédien Jérôme Commandeur. Et puis très partagé hier sur les réseaux, l'éloge funèbre prononcé de son vivant par Pierre Desproges sous les yeux d'un Guy Bedos hilar.
Guy Bedos n'est plus. Tu es mort. Guy Bedos n'est plus. La France perd le meilleur de ses fils et la rampe le meilleur de ses feux. Que dire du désarroi qui nous broie et de la douleur qui nous noue ? Sinon quand nos cœurs, l'un et l'autre, cohabitent pour reprendre le cri d'amour du crapaud. Guy Bedos, mesdames et messieurs, n'était pas parfait. Mais il avait beau être de gauche, on ne m'ôtera pas de l'idée que c'était un honnête homme.
Du Desproges dans le texte et enfin cette une du journal Libération ce matin avec ce titre « Guy Bedos, la rage de rire ».
Belle une d'ailleurs. Nicolas Poincaré, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques.
Nicolas, nous allons revenir sur toutes les annonces du Premier ministre tout à l'heure à 8h10. Le déconfinement s'accélère.
Voilà, je vais vous expliquer.
Deuxième phase, jusqu'au 22 juin.
Je vais vous expliquer ce qui reste interdit et ça va être assez rapide parce qu'il y a pas grand chose et tout ce qui rouvre ça va être plus long parce qu'il y a beaucoup de choses qui rouvrent. On va surtout voir que on va récupérer mardi prochain une totale liberté de circulation et donc c'est la fin d'une période qui à mon avis va rester dans les livres d'histoire, une période d'interdiction, de limitation de nos libertés.
Bien, 7h29, qu'allons-nous faire après le journal, Mathieu ?
Les résultats sont bons sur le plan sanitaire, c'est ce que dit le gouvernement, mais sur quels critères se basent-ils ? Les tests, le niveau de vigilance ?
Oui, parce qu'on a compris hier, mais ça mérite des précisions.
De quoi s'agit-il exactement ? Benjamin Davidot, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, est avec nous juste après le journal de 7h30 sur RMC.
Il est 7h30 juste, merci d'être avec nous. Anne-Sophie Balbière est là pour les dernières informations. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Limite des 100 km supprimés, réouverture des cafés-restaurants, des campings, des hébergements touristiques. Phase 2 du déconfinement, de nombreuses restrictions levées dès mardi. Pas d'épreuve orale de bac de français pour les élèves de première cette année, mais les lycées des zones vertes vont rouvrir le mois prochain. Toutes les écoles, tous les collèges aussi. Et puis, on vient d'en parler, il était drôle, il avait des convictions chevillées au corps. Guy Bedos est mort hier à l'âge de 85 ans. RMC 7h31. Plus de limite de déplacement de 100 km à partir de mardi. Camping, village vacances, hébergement touristique rouvrent. Double dose de bonheur, à la fois pour les futurs vacanciers et pour les professionnels. Reportage à Sérignan dans l'Hérault, Jean-Wilfried Forquès.
En apprenant la nouvelle, Jean-Guy Amat, directeur du camping Le Sérignan Plage, n'a pas caché sa joie.
On dit un gros ouf, oui, parce que si on avait retardé encore cette date-là, il est clair que c'était toute la saison qui était morte.
Depuis plusieurs jours déjà, près de 70 salariés préparent la réouverture du site. Sylvia et ses équipes installent des transats bien espacés près des piscines.
Ça permet aux gens de pouvoir sortir des transats, reprendre les axes principaux, sans être trop rapprochés les uns des autres.
Même souci sanitaire pour Yannick, près des toboggans.
Nous mettons des marquages au sol, espacés de 1 m à 1 m 20, pour que chaque client puisse attendre en respectant la distanciation sociale.
Quant à Antoine Date, directeur d'exploitation, il réfléchit à des animations au mini-club pour ne pas mettre en danger les plus petits, et il a trouvé la solution.
D'utiliser les mini-clubs comme des open space, c'est-à-dire venir dans l'espace du mini-club, profiter des jeux et des infrastructures qui seront mis à disposition, avec des animateurs qui vont désinfecter, orienter les gens dans l'organisation des jeux et dans le choix des activités.
Dans ce camping de l'Hérault, on espère maintenant que les frontières pourront rouvrir rapidement, car ici, de très nombreux campeurs viennent d'Allemagne ou des Pays-Bas.
Aller et venir en France librement à partir de mardi, ça n'est pas arrivé depuis 2 mois et demi à cause du coronavirus. Alors oui, forcément, pour Manon, habitante des Hauts-de-Seine, l'enthousiasme est là.
C'est plutôt une très très bonne nouvelle et en fait pour nous de pouvoir déjà partir à la campagne, retrouver nos parents, parce que là on a des parents qui vivent en Normandie et c'est à 250 km d'ici, donc pouvoir aller s'aérer, changer d'environnement après presque 3 mois voilà, enfermés, c'est une très très bonne nouvelle. Et ensuite par rapport à la période estivale, le fait de pouvoir partir en vacances, on est content parce que ça va pouvoir nous apporter un peu de souffle, un peu de vie et un retour plus concret à la normale.
Et puis, si vous avez envie de vous faire un resto entre amis, de boire un café le matin dans votre bar préféré, plus que 5 jours à attendre. Au menu, mesures sanitaires strictes, mais quelques restrictions allégées par endroit, Romain Cluzel.
Chaque table pourra accueillir au maximum 10 personnes dès mardi. Aucune distance minimum n'est requise au sein du groupe. Il faudra seulement respecter une distance d'un mètre entre chaque table. Port du masque obligatoire pour le personnel, obligatoire aussi pour les clients quand ils se déplaceront dans l'établissement. Des règles valables à l'intérieur comme en terrasse. Il sera en revanche interdit de consommer debout, pas de café ou de bière au comptoir donc. Et les règles sont encore plus strictes dans les zones oranges, c'est-à-dire en Île-de-France, à Mayotte et en Guyane. On ne pourra s'installer qu'en terrasse. Les salles en intérieur resteront condamnées. Une décision assumée par le Premier ministre pour les 3 prochaines semaines. Afin d'aider au mieux les restaurateurs, les maires pourront autoriser les gérants à agrandir leurs terrasses pour accueillir le plus de clients possible.
Le déconfinement va nous permettre de vivre une vie presque normale et de souffler après l'épreuve, a lancé Édouard Philippe hier. Feu vert donné pour l'ensemble des plages, pour les monuments, les musées. Dès demain, plaisir retrouvé dans tous les parcs et jardins, y compris à Paris. Piscines, salles de sport et gymnases seront à nouveau accessibles dès mardi en zone verte. Il faudra attendre le 22 juin dans les zones oranges. L'autre priorité du gouvernement est de permettre à un maximum d'élèves de retourner en cours. Toutes les écoles et tous les collèges rouvriront le mois prochain. Mais la situation ne sera pas la même en zone verte ou en zone orange, comme en Île-de-France, à Mayotte, en Guyane. Margot Bédé.
Dans ces départements, la priorité est donnée aux élèves de 6e et de 5e. Les 3e et 4e devront sans doute encore attendre. Chaque chef d'établissement décidera du retour en classe, qui devra se faire dans le respect du protocole sanitaire, 1 mètre au minimum entre chaque élève par exemple. Du côté des lycées, dans les départements verts, les lycées généraux, technologiques et professionnels rouvriront la semaine prochaine. Dans les départements orange, les lycées professionnels seront prioritaires. Il y a plus de décrochage et des besoins particuliers dans ces établissements, d'après Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation nationale a également annoncé l'annulation de l'oral du bac de français pour les élèves de première. L'épreuve sera validée par les notes du contrôle continu.
Priorité aussi à la relance de l'économie et il y a urgence. Le chômage a bondi de 22% en avril, du jamais vu. Et puis Renault prévoit de supprimer 15 000 emplois dans le monde, dont 4 600 en France. Mobilisation à 8h ce matin devant l'usine de Choisy-le-Roi à l'appel des syndicats. Selon le dernier bilan du coronavirus, 66 personnes de plus sont mortes en 24 heures dans les hôpitaux en France. Le nombre de malades en réanimation continue de baisser. Aux États-Unis, c'est près de 1 300 personnes qui sont décédé en 24 heures. Et à Minneapolis, 3e nuit d'affrontement contre la police, des manifestants ont incendié un commissariat. 200 membres de la garde nationale doivent être envoyés sur place. Ces violences font suite à la mort d'un Afro-Américain lors de son interpellation lundi. RMC 7h36. Pour lui, le sérieux était le cholestérol de l'imaginaire. Guy Bedos est mort hier à l'âge de 85 ans. Il laisse derrière lui des sketchs cyniques, féroces, des film, Nous irons tous au paradis, un éléphant ça trompe énormément. Et évidemment, il nous laisse son engagement politique. Laurent Sègre.
Le racisme et l'intolérance, voilà ce qu'il ne supportait pas, un engagement né de son enfance en Algérie.
J'ai souffert atrocement, enfant, du traitement qu'on réservait aux Algériens. Donc c'est obsessionnel chez moi, le racisme.
Et parmi les têtes de Turc de sa féroce revue de presse...
Madame Le Pen, la star des nains gaumont.
François Hollande, alors chef de l'État, en prend lui aussi pour son grade.
J'ai tendance à penser qu'il n'est pas l'homme du rôle, président de la République, non.
En véritable figure de gauche, Bedos était aussi de tous les combats sociaux, comme à la scierie de Florange en 2012.
Le pire serait que tout ça se passe dans la différence générale. Ces gens qui travaillent, qui veulent travailler, qui veulent continuer à travailler, et qui ont des familles, etc., et qui sont zappés, littéralement, par le système.
Ces dernières années, le sort réservé aux migrants de Calais le mettait particulièrement en colère.
Ils ont fui la guerre pour la plupart. C'est minable de les traiter de la sorte.
À la dernière présidentielle, il avait voté Macron, car battre l'extrême droite, disait-il, est une urgence absolue.
Les courses, Mathieu, c'est à Laval.
Avec le pronostic de la Dream Team des courses RMC, favori, As, Violetto Jet, Outsider, 7, Diable de Vauvert, l'As et le numéro 7.
Bien, merci. Tout à l'heure, Nicolas Poincaré, pour revenir sur les annonces hier faites par Édouard Philippe. Mais Quentin Vinet, avant de recevoir Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine, qui est notre invité régulièrement. Auparavant, Quentin Vinet, quelques précisions tout de même dans les trains. Parce que pour l'instant, c'est un siège sur deux.
Oui, c'est ça.
Comme dans les autocars. On en parlait tout à l'heure. Et pas dans les avions, je le précise. Oui.
Pas dans les avions, absolument. Mais pour les réservations d'été dans les trains, effectivement, la règle, c'est un siège sur deux pour respecter les règles de distanciation sociale. En dessous de 60% d'occupation dans les TGV, il faut savoir que la SNCF, l'entreprise, perd de l'argent. Elle dit donc qu'elle attend des précisions du gouvernement rapidement.
Dans les décrets. Dans les décrets. Et ouais. Je vais poser la question à Sibeth Ndiaye tout à l'heure. Les transports en commun, notamment en région parisienne, mais pas qu'en région parisienne, tous les métros, tous les bus.
Alors, dans les transports en commun, le masque est obligatoire, ça depuis le 11 mai. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a dit ceci, c'était hier soir à la télévision sur TF1, le port du masque va demeurer obligatoire jusqu'à la fin de l'épidémie, mais il est possible, selon elle, d'assouplir les règles de distanciation physique, peut-être même de les supprimer, et c'est intéressant parce que ça entraînerait, selon elle, la fin de l'attestation employeur en région parisienne.
Les aéroports.
Alors, dans les aéroports, Orly reprendra ses vols commerciaux de passagers à la fin du mois de juin, le 26 précisément, et Nice, qui est le troisième aéroport de France, reprendra tout doucement à partir de lundi prochain.
Outre-mer.
Et bien depuis la métropole vers les territoires d'outre-mer, le contrôle et la quatorzaine à l'arrivée restent en vigueur, mais le gouvernement envisage une ouverture plus large pour les vols pour les grandes vacances d'été.
Bien, Benjamin Davido, bonjour, merci d'être avec nous. Regardons un peu ce qu'a annoncé hier Olivier Véran, le système de surveillance, parce que j'ai compris, mais je voudrais qu'on précise pour toutes celles et ceux qui n'étaient pas, qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas regardé hier. Donc, on surveille, le gouvernement, les autorités sanitaires surveillent le niveau de l'épidémie. C'est le niveau de vigilance. Alors, premier indice, ce qu'on appelle le taux d'incidence, calculé sur une semaine. J'explique. Le nombre de nouveaux cas identifiés sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Chaque semaine, si j'ai bien compris, sera mesuré le nombre de nouveaux cas.
Oui, et surtout aussi le fameux R0, qui est le risque de contamination d'un individu et d'une autre personne. Aujourd'hui, on sait qu'on est proche de 0,8 et que pour contrôler une épidémie, il faut être inférieur à 1. Le confinement nous avait permis d'atteindre des chiffres extraordinaires puisqu'on était autour de 0,5. Et tant qu'on ne dépasse pas cette barrière symbolique, on contrôle l'épidémie.
On est à 0,77, je crois, en ce moment.
C'est à 0,8.
On est en dessous de 1, c'est bien.
Et donc, c'est bien. Et tant qu'on est en dessous de 1, on peut continuer à reprendre une vie à peu près normale. Et c'est très important de suivre ces indicateurs. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, je pense que c'est d'apprendre à vivre avec ce virus. Peut-être que ça s'éteindra, et je le souhaite sincèrement. On en avait parlé d'ailleurs ensemble, souvenez-vous, d'apprendre à vivre avec un virus qui circulerait à bas bruit.
Oui.
Peut-être qu'il s'éteindra. Et si malheureusement, on n'arrive pas à l'éteindre, on sait que la clé qui devrait permettre cette solution, c'est la vaccination large de la population, parce que ça permettrait d'avoir une immunité collective.
Oui. On l'a pas encore, la vaccination.
On l'a pas encore, et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement patient, extrêmement prudent, ne rien relâcher, garder ces mesures barrières, garder l'utilisation du masque large, parce que c'est un outil qui scientifiquement a été démontré comme étant extrêmement efficace pour réduire la propagation du virus et d'autres virus respiratoires. Et puis, on va arriver ensuite, je l'espère, sur des périodes plus réjouissantes, les vacances, puis la période d'octobre. Et on sait qu'à partir d'octobre-novembre, on a à nouveau une recrudescence de virus saisonniers, des virus respiratoires, la bronchiolite chez les enfants, le début de l'épidémie de grippe à bas bruit. Et donc, toutes ces mesures qu'on a apprises vont être utiles aussi contre les autres virus.
Évidemment. Hein. Benjamin Davidot, oui, je parlais du niveau de vigilance. Donc, chaque semaine, on vérifie le nombre de tests virologiques positifs pour 100 000 habitants. Hein. Si on est au-dessus de 50 cas pour 100 000, là, alerte.
Oui, absolument. Alors aujourd'hui, la positivité des prélèvements, c'est 1,9% à peu près. Voilà, on est descendu à 10 fois ce qu'on avait au moment donné du pic. Donc c'est spectaculaire, mais spectaculaire dans le bon sens. Oui. Et c'est pareil, tout ceci sont des indicateurs. Hein. Au début, souvenez-vous, on avait reproché qu'on testait pas assez les gens et donc on était finalement dans une surestimation.
Puisqu'on teste comme il faut.
On teste comme il faut, à mon sens, puisqu'on teste les symptomatiques comme les asymptomatiques et les cas index. Et c'est vrai que l'application Stop Covid, qui va sortir dans les jours à venir, va nous aider. C'est pas antinomique avec les brigades et les moyens humains.
Vous la chargerez, vous ?
Oui, bien sûr, je la chargerai, parce que je pense que c'est quelque chose de citoyen de le faire et qu'il faut se signaler lorsqu'on est malade et que ça permet, si vous voulez, de rendre visible ce virus qui ne l'est pas à l'échelle médicale, et de mieux contrôler le virus, et de façon inexorable, le mieux on dépiste, et donc on arrive à voir les gens qui ne sont pas malades, ce qui est extrêmement dur. En médecine, on ne sait pas voir quelqu'un qui n'est pas malade. C'est comme la tension, on ne peut pas vous dire que vous avez de la tension si on ne vous la prend pas. Eh bien, le plus on détectera ces patients asymptomatiques, le plus on permettra de les isoler et de faire baisser inexorablement ce R0. Et je crois qu'aujourd'hui, l'ambition, c'est que ça s'arrête. Tout le monde en a ras-le-bol de ce virus. Tout le monde veut reprendre une activité, vous êtes d'accord ? Les restaurateurs, l'hôtellerie. Et donc, moi, je ferai le maximum, en tout cas, je vais continuer à me battre pour que ça s'arrête, ce virus, et qu'on le contrôle une fois pour toutes.
Bien, Benjamin Davidot, on vous retrouve dans 2 minutes, on va faire un petit peu de pub, vous allez nous parler de l'hôpital plus largement. Il est 7h43, tout de suite.
RMC, Bourdin Direct.
Vos hommages à Guy Bedos ce matin. Myriam nous écrit « On vient de reprendre et d'apprendre qu'on aura un peu plus de liberté. Mais Guy Bedos s'en est allé et là je pense qu'on perd quand même une forme de liberté », nous dit Myriam. Qu'est-ce que nous venons de perdre ? Jean-François est triste du décès de Guy Bedos, mais le pire c'est qu'il ne reste maintenant que son fils Nicolas. Jean-François qui s'autorise aussi l'humour grinçant de Bedos. Ouria nous dit « Oh non, pas lui, trop triste, son humour grinçant, son engagement à gauche, son sourire, tout, il va nous manquer. Michel Piccoli, Jean-Loup Dabadi, maintenant lui, 2020, quelle moche année, quelle tristesse. Albert nous dit aussi qu'il a une pensée pour Guy Bedos, dont j'appréciais l'humour, mais surtout le comédien. Et puis Sandrine nous dit, Bedos, c'était finalement le seul homme qui pouvait traiter les femmes de putes, de salopes, sans être vulgaire. C'était une autre époque, loin de l'aseptisé et du confiné qu'on connaît aujourd'hui. C'est peut-être ça qui l'a fait fuir, nous écrit Sandrine.
RMC, 6h-9h,
Bourdin
Direct.
Le docteur Benjamin Davidot, médecin infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine, est donc avec nous. Docteur Davidot, à Garches, dans votre hôpital, est-ce qu'il y a encore des malades du Covid qui arrivent ?
Il y en a fort heureusement beaucoup moins, à l'image de ce qu'on voit, tous les chiffres qui sont annoncés tous les soirs. Et la différence, paradoxalement, c'est qu'on voit arriver des malades de la première vague qu'on n'a pas pu voir en consultation, souvent des jeunes femmes qui étaient suivies, on s'appelle en ambulatoire, qui ont appelé leur médecin, qui sont restées chez eux, qui ont bénéficié du confinement.
Qui souffraient de symptômes divers
qui pourraient être un Covid a posteriori.
Ah oui, d'accord.
Et qui reviennent à l'hôpital, souvent, donc à plus de 6 semaines, puisque la distance de ce confinement, pour se faire tester et pour des symptômes divers et variés et dont on travaille pour savoir s'il pourrait s'agir de syndromes qu'on appellerait post-Covid.
Et les autres malades ? Les autres patients reviennent
autres
maintenant
patients,
qui souffrent d'autres pathologies ?
De façon très intéressante, on voit très bien que les gens ont déserté l'hôpital. C'est-à-dire que la consultation, les gens se sont débrouillés pour faire renouveler leur ordonnance. Il y avait tout un système bien orchestré par les pharmacies, premièrement, et aussi par leurs médecins de proximité. Et les gens ont peur de l'hôpital comme si l'hôpital était quelque part pestiféré ou en tout cas était le responsable du Covid. Et donc, on voit très bien qu'il y a tout un circuit à réinventer, à la fois pour être attractif, mais aussi parce que c'est très compliqué de faire fonctionner l'hôpital avant la crise, et cette fois-ci avec deux circuits, un circuit propre, qui est celui qui est pour les malades qui n'ont pas le Covid, et puis celui pour ceux qui ont encore le Covid, et il en reste, et on sait que c'est surtout les malades de réanimation qui occupent des lits, parce que leur parcours est particulier, que ces gens-là vont devoir bénéficier de rééducation respiratoire pour apprendre à respirer, à se réadapter, et que ça va prendre du temps, et qu'il faut aussi des structures pour cela.
Bien. Pourquoi dites-vous que l'hôpital est malade du Covid ?
Oui, eh bien un peu à l'image de ce qu'on expliquait tout à l'heure. Oui. Premièrement, eh bien il y a toujours ces malades Covid qui quelque part nous dérangent, puisque on sait que l'hôpital avait du mal à fonctionner avec une politique de plus en plus de gestion de malades ambulatoires, alors qu'on sait qu'on est arrivé probablement à nos capacités maximales avec les conditions qu'on a et les moyens humains, c'est-à-dire de gérer tout en ambulatoire. Un malade qui rentre le matin et qui repart le soir, c'est pas faisable. Par exemple, en maladie infectieuse, si on prend le Covid, ce n'est pas faisable. Et qu'on sait qu'à l'hôpital, il y a un certain nombre de chambres doubles. Sur l'assistance publique, on estime à 30%. Et que nous, ça faisait des années, notamment en maladie infectieuse, qu'on réclamait la fermeture de ces chambres doubles, qui pour nous est une ineptie, une source de contamination.
Ineptie en infectiologie.
Oui, il y a d'autres choses que le Covid. Il y a des bactéries multirésistantes, des bactéries qui résistent aux antibiotiques, et que de mélanger les malades, à l'image de ce qu'on a appris ces derniers mois, et maintenant je pense que vous en serez conscients,
oui.
Tous d'accord, qu'il y a des gestes barrières, des gestes à respecter, et que lorsqu'on mélange les malades, on s'expose à mélanger les maladies.
Est-ce que l'hôpital a repris ses anciennes habitudes?
Alors il essaye.
Mauvaise ou bonne?
Il essaye. Moi, en tant que directeur médical de crise, je m'y oppose farouchement, et donc je ne lâcherai rien là-dessus, puisque c'est mon corps de métier, l'infectiologie, et que je ne veux pas exposer mes malades à quelque risque que ce soit. Il faut être logique. Soit on se donne les moyens d'y arriver, et on va droit au but, soit on abandonne. Mais on n'abandonnera jamais les médecins.
Mais on est, oui, ça j'imagine, mais on a repris les mauvaises habitudes à l'hôpital ou pas?
On essayerait de nous faire reprendre les mauvaises habitudes. Disons que la mémoire de ceux qui nous dirigent est relativement courte, malheureusement. Nous, on n'a rien oublié parce qu'on est toujours dedans et que, comme je vous l'expliquais la dernière fois, nous, notre corps de métier qui est du Covid ou pas du Covid, c'est de soigner les malades.
Oui.
Et pour soigner les malades, il faut des besoins humains.
Et penser aux patients avant tout.
Absolument.
Avant de penser budget.
Mais oui, et puis l'hôpital aussi a besoin d'être rénové, l'hôpital a besoin de fonctionner autrement, il faut mieux articuler les hospitalisations, ce qui peut être géré en ambulatoire, la médecine de ville, il faut réinventer le système, c'est pas une histoire de rajouter du rustine et de dire qu'il suffit que la bobologie n'aille pas aux urgences, ça ne réglera pas le fonctionnement de l'hôpital, malheureusement, il faut, au point où on en est arrivé, il faut tout détruire pour tout refaire. Et c'est un véritable chantier actuellement, à mon avis. C'est trop tôt, puisqu'il reste des malades à l'hôpital. Et on peut pas faire comme si rien ne s'était passé, tout oublié.
Oui.
Voilà, ça se fera pas comme ça, ça va prendre du temps. Mais il faut se rappeler que l'hôpital fonctionne mal et que si on revient en marche arrière en disant ça y est, le Covid est derrière nous, on peut reprendre nos mauvaises habitudes, j'ai fait exprès de dire mauvaises habitudes, eh bien on va retomber dans nos travers et ça ira de plus en plus mal. Et il faut savoir aussi que le corps médical est malade, je disais l'hôpital avec un grand H, mais les soignants, on n'en peut plus. Enfin, vous imaginez, on ne s'est jamais arrêté, la plupart des gens n'ont pas eu de jour de repos. Et puis on va devoir enchaîner là sur les grandes vacances, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Alors voilà, la bonne nouvelle, comme tous les Français, c'est que dans quelques jours, on va pouvoir se libérer de cette distance des 100 km. Mais il va vraiment falloir que tout le monde mette du sien et que tout le monde accepte enfin que l'hôpital ne peut plus fonctionner dans l'état actuel des choses. Et je l'espère, on tiendra bon le plus longtemps qu'il le faut, mais pas trop.
Ne rien oublier. Merci, docteur Benjamin Davidot. Merci d'être venu nous voir encore une fois. Passionnant, comme d'habitude. Nicolas Poincaré est là pour les explications du jour.
RMC, expliquez-nous.
Alors expliquez-nous, Nicolas, nous allons revenir sur ce qu'a annoncé le Premier ministre hier. Le déconfinement s'accélère, donc on est en phase 2 de déconfinement jusqu'au 22 juin. De moins en moins de restrictions. Liberté retrouvée en grande partie.
Voilà, avec surtout donc dès mardi prochain, le retour d'une totale liberté de circuler. C'était la principale bonne surprise des annonces d'hier. L'interdiction de circuler au-delà des 100 km de chez soi, eh bien elle est tout simplement levée. On pensait que les 100 km allaient peut-être passer à 200 ou à 300, eh bien non, c'est le retour au droit de circuler partout en France sans avoir justifié quoi que ce soit. C'est la fin d'une parenthèse qui aura donc duré deux mois et demi de très fortes restrictions à notre liberté de nous déplacer. C'était une première dans l'histoire de France en temps de paix et ça se termine enfin. On retrouve même le droit de se déplacer à l'étranger. Édouard Philippe a eu un peu de mal à l'admettre hier. Il aurait préféré nous dire qu'il fallait rester en France, que c'était mieux de passer nos vacances en France pour des raisons économiques. Mais la réalité, c'est que si un pays accepte les Français, par exemple l'Italie, à partir de mercredi prochain, eh bien rien ne nous empêche de nous y rendre librement et d'en revenir sans difficulté. Pareil pour les pays qui n'ont jamais fermé leurs frontières, comme la Suède, on peut s'y rendre dès maintenant. Et puis pour les autres pays européens, la réouverture sera effective le 15 juin. Bref, on retrouve une vraie liberté de bouger.
De nombreuses autres interdictions vont être levées mardi, surtout dans les départements verts, les zones vertes. En fait, il y a que trois en orange, trois régions.
Ouais.
Île-de-France, département Mayotte et Guyane. Guyane.
Voilà. Pour les départements verts, donc ils sont 91 maintenant sur 101 départements, c'est-à-dire, vous l'avez dit, toute la France, sauf ces trois régions. Sur 67 millions de Français, 55 vivent en zone verte et 12 millions sont donc en zone orange. Concrètement, dès mardi, en zone verte, c'est la réouverture des restaurants et des bars, des théâtres, des musées, de toutes les plages, des piscines, des campings, des salles de sport, des gymnases, mais aussi des parcs de loisirs, pas seulement le Puy du Fou, tous les parcs de loisirs.
Et en zone orange, alors, qu'est-ce qui se passe?
En zone orange, il y a aussi des ouvertures, les parcs et jardins dès demain matin, les musées dès mardi, ou plutôt dès mercredi, parce que les musées sont généralement fermés le mardi. Pour le reste, pour les piscines, salles de sport, théâtres, la zone de orange aura 3 semaines de retard, c'est-à-dire que tout devrait rouvrir le 22 juin et non le 2. Et puis pour les bars et les restaurants, là on a une demi-mesure, vous en avait déjà beaucoup parlé ce matin. Ils peuvent rouvrir dès mardi, mais uniquement en terrasse. Pas de service à l'intérieur en Île-de-France pendant 3 semaines de plus. Et il y a beaucoup d'établissements qui n'ont pas de terrasse et qui ne vont donc pas pouvoir rouvrir en Île-de-France.
Bien, les écoles, les collèges et les lycées, on va en parler tout à l'heure avec la secrétaire générale adjointe du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Elle représente les principaux et les proviseurs. Alors, pour les écoles, collèges et lycées.
Alors, les écoles primaires, le ministre de l'Éducation nationale espère arriver très vite à 100% des écoles ouvertes. Pour les collèges en zone verte, dès la semaine prochaine, les cours reprennent pour toutes les classes, donc de la 6e à la 3e. En zone orange, les 4e et les 3e restent encore à la maison. Et puis pour les lycées, c'est la nouveauté, la vraie nouveauté. Ouverture possible dès la semaine prochaine en zone verte. Pas de réouverture en zone orange, sauf pour certains lycées professionnels. En réalité, au lycée, le 3e trimestre est bien fichu. On est à 4 semaines des vacances. Il n'y aura pas d'épreuve de bac, pas même l'oral de français en première. On va donc surtout demander aux professeurs de faire des entretiens individuels avec leurs élèves.
Et l'oral de français, la note sera calculée sur les 2 premiers trimestres. Note de contrôle continue. Finalement, qu'est-ce qui reste interdit?
Alors, les sports collectifs et de contact. Pas de football, pas de basket, pas de judo. Les stades restent fermés. Pas de rugby. Les stades restent fermés. Les boîtes de nuit aussi. Je sais que ça va vous manquer.
Oui, vous n'imaginez même pas.
Voilà. Et on n'a pas de date de réouverture pour les boîtes de nuit. Les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public sont interdits, mais chez soi, on a le droit de faire une fête avec plus de 10 personnes, par exemple si on se marie, parce que les mariages reprennent aussi. Les cinémas restent fermés, mais on connaît la date de réouverture, ce sera le 22 juin dans toute la France. Enfin, mon principal adversaire, a dit Édouard Philippe hier, mon principal adversaire, ce sont les grands rassemblements, donc pas de grands concerts, pas de festival de plus de 5000 personnes, au moins jusqu'au 22 juin, mais peut-être même pour plus longtemps cet été.
Puis j'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'on aura le droit de faire sur la plage cet été?
Alors, très bonne question, parce que les plages rouvrent toutes dès mardi, hein, au bord de la mer, des plans d'eau, des lacs. Le maire n'a plus besoin de demander l'autorisation au préfet, comme c'était le cas jusqu'à présent. Mais alors, que devient cette fameuse règle qui disait que les plages devaient être dynamiques, qu'on avait le droit de marcher, mais pas de se coucher sur sa serviette? Eh bien, il n'en a pas été question hier, donc on peut supposer qu'on a retrouvé le droit de s'asseoir sur la plage.
Qu'on veut.
Les images de ces policiers qui demandaient aux gens de ne pas s'asseoir, de ne pas s'allonger, c'est pour moi une des images symboles de cette période un peu folle qu'on ne va pas regretter. On aura le droit, un truc de fou, on aura le droit sans doute de s'asseoir sur la plage.
Il y a des établissements que l'on n'a pas évoqué, que le Premier ministre n'a pas évoqué, ce sont les EHPAD hier. Muriel, bonjour.
Oui.
Vous êtes dans le Jura, à Champagnole. Hein.
Tout à fait, oui.
D'abord, bonne nouvelle pour le Jura, vous êtes en zone verte.
Hein. Eh bien voilà, apparemment.
Enfin. Bon, vous travaillez en EHPAD.
Tout à fait. Je suis animatrice sociale, dans un EHPAD, oui.
Et vous n'avez rien entendu, simplement, le Premier ministre a parlé des personnes fragiles hier.
Voilà, mais pas un mot pour les EHPAD. Donc, ce matin, je pense qu'il y a une grande partie de la population qui doit être extrêmement déçue. Mmh. Pas un mot pour les EHPAD. Les résidents et les familles attendent quand même des informations. Moi, je suis confrontée tous les jours aux problèmes. On organise des visites de famille, on organise des appels visio. On est sur le front depuis le début du confinement. Les familles n'en peuvent plus tous les jours.
Vous savez,
tous les
jours. Tombe très très bien que vous me disiez cela, parce que je voudrais remercier. J'étais il y a une semaine voir ma mère qui est dans un EHPAD, qui est dans une situation difficile, et j'ai vu le travail extraordinaire réalisé dans cet EHPAD. Muriel. Extraordinaire pour rendre visite, pour organiser les visites qui sont mesurées. Hein.
Tout
on
ne
peut pas rester plus d'une demi-heure au chevet de la personne qu'on va voir.
Avec des mesures très strictes.
Alors, c'est très strict, mais on est obligé de mettre des charlottes, on met vraiment comme si j'étais un soignant de l'hôpital. Hein.
Voilà.
Mais c'est formidable. Il n'y a pas eu un cas d'ailleurs dans l'EHPAD où se trouve ma mère. Il n'y a pas eu un seul cas de Covid.
Voilà,
je dis chapeau à la... Et vous non plus. Dis chapeau à tout le personnel et à la direction.
Voilà. Donc moi j'ai un petit message à faire passer. On nous dit qu'il y a 800 000 demandeurs d'emploi supplémentaires ces dernières semaines. Et ben qu'est-ce qu'on attend pour renforcer un petit peu les services d'EHPAD? Les gens n'en peuvent plus. Ils sont confrontés à une solitude incommensurable.
Alors écoutez, vous savez ce que je vais faire, Muriel? Je vais poser la question à Sibeth Ndiaye, qui est mon invité tout à l'heure. Parce qu'effectivement, comme le Premier ministre n'en a pas parlé hier, je vais lui en parler. Voilà. Merci Muriel.
Hein. Eh ben, je vous remercie.
Et bravo
beaucoup
pour ce que vous faites.
Merci beaucoup. Et je salue tous les animateurs sociaux de France, parce qu'on parle toujours du personnel soignant. Oublions pas les animateurs.
Eh bien, vous avez raison. Merci Muriel.
Merci
Il est 7h59,
beaucoup.
Vous êtes sur RMC.